Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 58e épisode de Torréfaction. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, Kef. Hein, salut.
Mais oui. Oui, parce qu'en vrai, ça, en fait, on ment totalement aux gens.
Oui, on continue à se parler, mais on vous enregistre pas.
il vous manquait un petit podcast. Nous sommes de retour après un été chargé. Ouais. Pour des bonnes et mauvaises raisons, mais c'est des ça. Raisons. Voilà.
Exactement.
Et du coup, on a fait quelques petites pastilles cet été pour s'essayer à des trucs. Enfin, je me suis essayé au streaming. Et bah, c'est un métier, les mecs. Hein.
Ouais, c'était rigolo, enfin, cela dit, les gens ont l'air d'apprécier.
Exactement, donc du coup, je vous l'annonce, attention, je fais des investissements à hauteur de 18 euros pour pouvoir avoir un habillage un peu plus classe que ce que j'ai actuellement, et comme ça, je vais pouvoir vous streamer des petits trucs quand j'ai l'occasion d'avoir des jeux, pas en avant-première, mais en tout cas avec des bêtas rigolotes, des early access, un peu dans le style de ce qu'on a fait avec Archeon cette semaine avec la vidéo de Battle Right.
Mm-hmm.
On a pu tester la bêta fermée comme plein de gens ont pu le faire, hein, mais du coup comme ça, comme vous, vous n'avez pas l'occasion d'y jouer, soit parce que vous n'avez pas l'accès, soit parce que c'était pas dans des horaires possibles pour vous, vous aurez un peu une vidéo pour voir la gueule que ça a, ou alors on le fera en stream et ensuite en vidéo, on verra, ça sera en fonction des opportunités.
Mm-hmm.
Donc, on va se marrer, et puis sinon à part ça, on a quand même été hyper occupés parce qu'on a joué un peu à Monster Hunter World de mon côté. Parce que j'avais dit que j'y jouerais pas sur PC. Capcom, bravo, faire un Monster Hunter World avec aucune protection sur le personnage vu que toute la sauvegarde est côté client, donc sur votre PC, c'était une super bonne idée. Moi, ça m'arrange, hein. Au lieu de regrinder 250 heures comme sur PS4, j'ai pu me faire un personnage assez fat relativement rapidement, je dois l'avouer. Et si vous hésitiez, en tout cas sur la version PC, vous pouvez y aller. Ok, c'est pas ultra optimisé, mais ça marche vraiment pas mal. Et puis j'ai été revérifié si World of Warcraft était redevenu intéressant.
Et alors ?
C'est toujours World of Warcraft.
Hein. D'accord, ok. Non, c'est toujours pas pour moi.
Non, par contre, je me suis fait une interface ultra mignonne et je pense que. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un petit post, un petit tuto sur comment avoir une interface trop stylée, parce que je comprendrai jamais les gens qui jouent avec l'interface de base sur World of Warcraft. C'est vraiment immonde. Mais du coup, j'ai monté un personnage level 120, j'ai bien fait le tour de la nouvelle extension et très honnêtement, pour un jeu qui. Commence à accuser son âge. Il a la voix qui change en ce moment, tu vois. C'est vraiment pas mal. Après, c'est du World of Warcraft. Faut aller farmer ses petits, son gear pour aller farmer plus de gear. C'est un MMO, quoi. Rien n'a bougé. Et je suis pas ultra fan de ce qu'ils ont fait de certaines classes pour les simplifier. Donc, il y a de quoi faire une émission complète sur WoW. Je pense que nous avons des gens invités si un jour on a envie de faire ça. J'ai des noms. En tout cas, l'extension, c'est pas du vol. Mais avec tous les jeux qui sortent actuellement, soyez bien sûr que vous avez le temps de vous lancer là-dedans, parce que
c'est tout le chronophage.
Ils ont rajouté un milliard de quêtes, donc tu t'en sors pas comme ça. Et pendant les vacances, j'ai un peu upgradé le matos audio aussi. Il a fallu faire un petit transfert de ressources technologiques vers les démons du midi, et notre ami Pippo Mantis.
Il avait besoin d'un micro, le petit.
Oui, mais en plus, ça m'a servi d'excuse pour pouvoir renouveler le mien, parce que mon Yeti, il avait déjà 6 ans. Et je me suis dit, tiens, si je m'achetais un micro de professionnel, comme tous ces gens professionnels, alors que je suis pas trop, mais c'est pas grave. J'ai découvert un truc hallucinant par rapport à notre petit monde de l'informatique, c'est que le matos audio, ça évolue tranquillement.
Ça bouge pas
de
pression.
Des masses, Et moi, j'étais là genre, mais je vais pas acheter cette table de mixage, monsieur Yama, elle est sortie en 2014. Et en fait, c'est normal, mon gars. C'est les durées de vie des produits en audio, c'est un truc hallucinant.
Tu sais, vend toujours des platines vinyle des années 70, hein, donc.
Ça m'a fait délirer parce que du coup, le micro que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais un des micros les plus utilisés et ses petits cousins sont pas renouvelés beaucoup plus vite, hein. C'est donc un truc de chez Shure qui est le SM7B. Et alors, ça me fait délirer parce que le SM7, il est sorti en 1976. Il a été rénové en SM7A en 1999. Et celui que j'ai acheté est sorti en 2001.
Et
donc
ouais.
les mecs sont tranquilles et ça reste un des micros les plus vendus de la planète parce qu'il est juste intouchable, quoi. Et ça m'a fait délirer parce que tu te dis, bah moi je change de téléphone tous les ans. Bah, mm-hmm. On n'est pas sur les mêmes technos, on n'est pas sur les mêmes évolutions. Hein. Les mecs ils ont dit, bah ça capte la voix, ouais c'est bon, ok tu m'entends, et bah elle touche plus à rien. Donc ça m'a fait assez marrer et je me dis que la planète serait peut-être assez contente qu'on se calme tous sur nos téléphones. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure.
Allez, on va attaquer le corps de l'émission. Maintenant qu'on a fait ce petit préambule post-vacances et que voilà, on est content de vous retrouver hein, quand même malgré tout. on va parler de gaming.
Non, mais on est super content. Fastide, qu'est-ce que tu dis?
On va parler de gaming. Tu voulais parler de Shadow of the Tomb Raider.
Tomb Raider de Lara Croft hein, qui revient. Et alors en fait, on va en parler la semaine prochaine puisque comme vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais le jeu sort aujourd'hui pour mm-hmm. vous, petits auditeurs, mais il y avait une version Early Access pour la presse évidemment, mais aussi pour les gens qui avaient précommandé qui peuvent jouer depuis le 12. Mm-hmm. Ce qui était mon cas. Le problème, c'est que j'ai pu y jouer un petit peu, pas assez pour donner un avis qui soit pertinent, et puis surtout cette version est portée par une boîte qui n'est pas Square Enix sur PC, et moi je joue sur PC et il y a quelques bugs que je vais attendre patiemment de voir régler. Alors il y a rien de grave, mais c'est des trucs où quand t'es en train de jouer tu fais genre les mecs je l'ai vu celui-là. Moi le celui qui m'a, j'ai rigolé devant mon écran, ok je vous le donne, mais voilà, c'est pas représentatif de la qualité du jeu puisque ça sera réglé, vous arrêtez, c'est tellement évident que ça sera réglé. Mais dans une des premières cinématiques avec le moteur du jeu, il y a Lara qui faisait des mouvements bizarres et tout, je comprenais pas ce qu'elle foutait. Et puis après, j'ai compris qu'elle était en train de refixer son arc et de l'ajuster, sauf que moi, en fait, l'arc, il apparaissait pas à l'écran.
Donc, ça devait être assez intéressant, ouais.
Donc j'étais là, genre, je comprends pas trop ces animations, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai fait tilt parce que la séquence d'après, bim, l'arc s'est rematérialisé sur Lara. Et d'un coup, j'ai compris ce qui se passait, j'ai fait, ok, bon, j'y joue un peu et je vais voir. Et ça démarre plutôt pas mal. Mais j'ai vu des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de combats.
D'accord.
Dans un Tomb Raider.
Ouais. On n'a pas joué au même jeu, en fait, là.
C'est pas fait pour les combats, Tomb Raider. Et je suis désolé de vous le rappeler, les mecs. Hein. Donc, bon, j'espère qu'il y a suffisamment d'énigmes. Parce que généralement, les gens râlent parce qu'il n'y a pas assez de tombes, justement.
Oui, c'est ça.
Dans Tomb Raider. Donc là, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, le début de l'histoire et l'écriture du personnage sont assez surprenants dans ce troisième épisode. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont développer le personnage, même, puisque ils ont l'air d'avoir voulu faire un truc assez intéressant avec notre amie Lara. La suite la semaine prochaine.
Très bien, on en reparle la semaine prochaine. Donc, et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de torréfaction, donc forcément, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de PUBG. Des news de ce côté-là aussi, évidemment.
Mais oui. Alors déjà, ils ont fait un truc rigolo, c'est qu'ils ont fait... Enfin, je sais pas vraiment eux qui l'ont mis en avant. Il y a une boîte qui a dit PUBG, seul jeu de la planète à avoir fait plus d'un million de joueurs tous les jours pendant un an. Ce qui est un record hallucinant.
Sur Steam.
Sur Steam, ouais. Mm-hmm. Donc, 1 million de mecs connectés every fucking day minimum, tu vois. Donc, c'est monté à plus de 3 millions en janvier dernier. Hein.
Joli score.
Donc, ils étaient tranquilles. Sauf que la news sort, et la news est sortie donc le lendemain de la validation de l'année en question. Mm-hmm. Et le lendemain, ils ont fait 900 000. C'est passé de justesse, les gars. C'est passé de justesse. Parce que, comme vous allez le voir dans les news de cette semaine, il y a un petit peu de concurrence. Mais PUBG ne dort pas sur ses lauriers. Il y a une nouvelle map qui a été data minée. Vous savez, quand les mecs vont fouiller dans les fichiers pour voir ce qu'ils y trouvent alors qu'il n'y a pas eu d'annonce. Donc, ils ont trouvé que la prochaine map serait bien effectivement sous la neige, que ça devrait s'appeler Dior Otok. On va trouver plein de jeux de mots débiles avec ça, certainement, mais là, je ne sais pas.
Dior Otok, d'accord. Okay.
Ouais, c'est en deux mots, c'est très chelou. A priori, ils veulent rajouter du C4.
Ok.
Donc, du C4 avec des petites explosions à distance, j'imagine. Ça va pimenter les fins de partie. Ça, je pense qu'il va y avoir des petits coups bien fourbes à faire. Mm-hmm. Il y a des nouveaux véhicules qui arrivent. Et dans le patch qui faisait la bagatelle de 12 gigas, je crois, cette semaine, nous avons enfin la zone d'entraînement qui est apparue. Alors, la zone d'entraînement, est-ce qu'elle est bien? Oui. Sauf que, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas t'entraîner, toi, quand tu vas faire du sport pour prendre ta bagnole pour aller d'un point à l'autre.
Attends,
de la map.
Moi, je vais faire du quoi? Tu me fais rire, là.
Ah, c'était bien.
Je veux dire, on s'est pas parlé pendant deux mois, mais quand même. Hein.
C'était un tu général qui s'adressait un peu à nos auditeurs,
c'est
tu
ça,
vois.
Ouais.
Car il faut savoir que des gens font du sport sur cette planète.
C'est grand malade.
C'est un truc de fou. Faites attention, vous allez vous faire des bobos. Donc, du coup, cette map d'entraînement, elle est rigolote, mais et comme vous n'êtes pas tout seul dessus, c'est très, très chiant, puisque... On va dire qu'il y a des gens qui sont un peu trop contents d'être là et qui vont vous prendre un peu pour cible, hein, exactement comme qui se passait finalement dans les zones d'attente avant les parties, ce qui est complètement con. Mais bon, voilà, donc c'est mieux que rien. Ça vous permet de tester les scopes, de tester les armes, de tester tout ce qui est dispo dans le jeu, de voir un peu le recul, de changer les poignées, etc. Bien que j'ai même pas vérifié que toutes les poignées étaient bien bien dispo, mais ça sera mieux que d'essayer de faire des essais dans votre petit village planqué dans une map en espérant que personne vous entende et vienne vous chercher. Donc voilà, donc ça ne nous plaignons pas.
C'est mieux que rien.
C'est mieux que rien, mais peut mieux faire. Et je vous rappelle que Blue Hole a décidé de lancer une grande opération fixe PUBG. Il reste du boulot.
Mais...
parce que un an et quelques plus tard, on a toujours une interface en carton. Et ce qui me fait une transition parfaite pour les petits concurrents qui arrivent, dont on va parler là, maintenant, tout de suite.
Ring of Elysium, dont on avait déjà parlé sur Geekzone, et qu'on attend toujours chez nous, en fait, parce qu'officiellement, bah oui, il n'est pas sorti.
Alors, c'est hyper compliqué et très bizarre, cette histoire, puisque donc Ring of Elysium avait disparu. Nous, on avait fait un tuto sur Geekzone pour expliquer comment il jouait sur ses serveurs thaïlandais.
Ouais.
Et puis, bah, le jeu avait fini. Son petit nom, il a un deuxième nom, en fait, qui s'appelle Europa. Donc, en fonction des zones de la planète, le nom change en fonction du pays dans lequel vous jouez. Et là, la blague, c'est que maintenant, il y a une page Steam qui existe, qui est Ring of Elysium, entre parenthèses, Europa, coming soon. Alors, tu te dis, ah, enfin, tu vois, bah, on va pouvoir jouer tranquillement avec depuis Steam, sans installer le client Garena tout chelou, là. Et bah, non, c'est pas aussi évident que ça, puisque oui, on a une date. Il va sortir le 19 septembre, mais uniquement aux États-Unis.
D'accord.
Alors, pour un jeu qui s'appelle Europa, évidemment, ça met un peu les glandes.
Oui, c'est bizarre.
On va pas se mentir. Donc, on n'a aucune information sur la date de sortie en Europe. On sait qu'ils y travaillent, hein, parce qu'ils ont essayé de limiter la casse. Ils se sont fait insulter un peu partout. Les gens l'attendent vraiment, ce Battle Royale. Évidemment, les gens ne sont pas contents sur Steam et le font savoir. Et donc, sur Twitter. Et donc, les community managers étaient là, genre, ah, ça arrive, mais on n'a pas l'info, mais on est dessus, vous inquiétez pas de panique, blablabla. Et moi, je vous dis, soyez patients, parce qu'ils sont en train de nous faire un truc qui risque de surprendre pas mal de monde, y compris les petits gars de chez PUBG, justement, puisque Ring of Elysium, ils changent la map. Déjà, la map qu'on avait, nous, quand on jouait sur les serveurs thaïlandais, pour l'instant, on la retrouve pas.
D'accord.
Ils ont fait une nouvelle map uniquement sous la neige. Ça tombe bien, puisque c'est la prochaine de PUBG.
Ouais.
On va pouvoir comparer. Et ils ont changé plein de trucs. Ils ont rajouté des skidoos. Ils ont rajouté un snowboard avec lequel tu peux faire des tricks.
D'accord.
Oui, monsieur, tu peux faire snowboard 360 comme quand t'étais jeune, mais dans un Battle Royale. Ils ont rajouté une extraction via hélicoptère, donc le dernier doit se mettre sous un hélico, etc.
Ça rappelle Left 4 Dead. Hein.
Ça rappelle Left 4 Dead, mais ça rappelle plein de Battle Royale. Enfin, il y a d'autres jeux qui arrivent en ce moment qui rajoutent ce truc-là.
D'accord.
Tu vois, ça revient à la mode, ce qui permet de pimenter les dernières secondes, minutes de jeu. Donc, tu t'es pas à l'abri d'un petit coup de snipe au moment où tu penses aller vers l'hélico peinard. Et du coup, ça peut changer la donne.
Mais c'est cool, parce que du coup, ça donne une impression de fin, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait
exactement.
Un côté pour les spectateurs, et notamment le côté e-sport de PUBG, qui était un peu frustrant. C'est-à-dire qu'une fois que le dernier est mort, enfin l'avant-dernier en tout cas, que le gars a gagné, il y a une espèce de fin très
anticlimatique.
Voilà, exactement. Même si ça n'existe pas en français, moi j'aime bien l'utiliser aussi. Et ouais, c'est plutôt une bonne idée, ça.
Et du coup, ça, c'est un truc qui est. Tous les mecs qui font des Battle Royale ont ce problème. Il y a le problème sur Fortnite, il y a le problème sur PUBG, et les nouveaux qui arrivent se sont dit, mais attendez les mecs, vos écrans de fin, ils sont tout pourris, ça ressemble à rien, t'es content d'avoir gagné, t'as transpiré des mains, mais t'as pas vraiment de reward, donc c'est un souci. Donc les mecs, ils travaillent, ça sera un free-to-play, et il y a un nouveau trailer qui est sorti, un peu chelou, avec une voix off qui est un peu mixée à l'arrache, j'ai envie de vous dire. Je vais très très certainement faire une petite news là-dessus quand on aura fini d'enregistrer ce podcast, pour vous balancer ça sur Geekzone, histoire que vous voyez la tête que ça a directement, et puis on en reparlera quand ça sera dispo chez nous, parce qu'à mon avis ça fait partie des jeux, il est beaucoup plus arcade que PUBG, donc plus accessible, et je pense qu'il y a des gens qui vont être très clients. Donc voilà, on verra comment ça évolue.
Ring of Elysium, donc normalement bientôt sur Steam, en tout cas on croise des doigts, et puis on reste dans le Battle Royale avec forcément Activision s'y met aussi avec Call of Duty Black Ops 4.
Mais ouais, et son petit mode Blackout qui va être en bêta fermé pour les gens qui ont précommandé le jeu sur PC demain soir, enfin non, du coup excusez-moi, ce soir pour vous. Nous enregistrons jeudi, comme vous le savez, et il y a la bêta fermée est déjà activée sur les gens qui ont acheté précommandé le jeu sur PS4. Et ce qu'on voit depuis le début de la semaine est ultra surprenant, et si vous cherchez sur la net, vous verrez plein d'articles sur le thème mais qu'est-ce qui se passe, c'est vachement bien. Bon, c'est comme PUBG mais terminé.
C'est ça.
Et les mecs, on s'y attendait pas. Alors, je vais vous mettre quelques liens avec le billet qui accompagne ce podcast pour aller lire des papiers chez Ars Technica ou Eurogamer qui sont assez parlants. Il faut savoir un truc, c'est que le mode Blackout, qui est le mode Battle Royale de ce Black Ops 4, qui est uniquement multijoueur, donc de toute façon, il n'y a pas de campagne solo sur cet épisode-là. Le mode Blackout est fait par Raven Software. Et c'est loin d'être des manchots quand on parle de multijoueurs. Et du coup, ils ont fait un truc ultra péchu avec vraiment un feeling au niveau des fights qui est excellent. Quand vous touchez les mecs, il y a un feedback audio. C'est con, mais ça reste un truc qu'il y a aussi justement dans Ring of Elysium. Et ça rajoute vraiment une petite notion hyper importante pour savoir ce qui se passe. Quand le mec est super loin, t'as pas toujours le temps et que tu tires et tu veux sniper et hop, tu veux te planquer. T'as pas toujours le temps de regarder si ton coup a vraiment porté. Et là, d'entendre ce truc-là, eh ben, ça te donne vraiment des indications supplémentaires. Ils ont rajouté en plus plein de trucs débiles. Tu peux piloter des hélicoptères sur la carte, des voitures télécommandées avec des petites caméras pour partir en reconnaissance. Ils ont des quads. Enfin, au niveau des véhicules et de la gestion des véhicules, on est très très loin des moteurs physiques ultra approximatifs de PUBG. Donc, du coup, j'ai fait un truc. Faut que je l'avoue à la France entière. J'ai précommandé.
Ok, d'accord.
J'ai précommandé le jeu, donc j'ai accès à la bêta parce que ça m'évitait d'appeler des attachés de presse. Voilà, c'est compliqué ma vie. Il n'est pas impossible que demain soir je stream non pas du Lara Croft justement, mais cette bêta de Call of Duty.
D'accord.
Parce qu'on est plusieurs sur Geekzone à avoir fait le truc qu'on vous dit de jamais faire, c'est-à-dire précommander un jeu.
Ah bah bravo. Bel exemple pour la jeunesse, monsieur Café.
Bah voilà, je sais, on a été faible. Et en fait, je me suis hypé tout seul en regardant des streams justement, tu vois, comme les petits Jones, et de voir les réactions des mecs en mode genre mais c'est vachement bien, mais je m'y attendais pas, mais qu'est-ce qui se passe. Donc du coup voilà, on regardera ça demain
ce soir en fait.
Et oui, il faut que j'arrête de dire demain.
Ouais, je sais bien. Donc, il faut que tu te projettes dans le temps en fait.
Donc là vous allez au boulot, on est vendredi matin. Voilà, et donc ce soir, si vous n'êtes pas crevé, il y aura peut-être du stream sur Geekzone sur notre channel Twitch, enfin c'est le mien, donc c'est twitch.tv/caféine évidemment, et on regardera peut-être ça ensemble si vous êtes sages.
Et on reste dans le gaming avec tout à fait autre chose à présent. Marvel Spider-Man, dont on parle beaucoup, qui est sorti sur PS4.
Bah oui, cette petite exclue PS4 qui est juste pour toi, tu vois. Parce que je crois qu'il y a Marvel dans le titre. Quand il y a Marvel dans le titre, c'est pour Fasquille. Hein. C'est simple la vie. Moi, il y a des trucs comme ça de base. Qui a été noté hallucinamment haut à peu près partout. Moi, j'y ai joué, mais très peu de temps chez un ami. Et j'étais en mode genre, ok, ça tue. C'est super bien, mais je suis sûr que c'est chiant très très vite. Tu vois, j'essaye de te convaincre de pas acheter le jeu parce que tu sais que déjà il y en a beaucoup trop qui sortent pour cette fin d'année et que t'auras pas le temps de tout faire et qu'il faut absolument que tu attendes cette version en promo l'année prochaine qui suffira largement. Et puis après, encore une fois, je suis tombé sur des streams et j'en ai parlé avec des collègues et tout le monde est unanime en disant que ce Marvel Spider-Man est petit A le meilleur Spider-Man qui est jamais sorti. J'ai envie de te dire, c'est pas très compliqué des adaptations de jeux super-héros en jeu vidéo, ça se passe pas super bien très très souvent. On a notre ami Batman qui a eu vraiment des bons épisodes, et souvent pendant les previews tout le monde disait c'est Batman avec Spider-Man. Oui mais non, parce que en fait les petits gars de chez Insomniac ont réussi à faire un feeling sur le Spider-Man qui est hallucinant. Tu te balades dans les immeubles de Manhattan, mais c'est juste ultra jouissif. Ils ont fait une écriture des persos hyper intéressante. Il y a une vraie histoire, incroyablement. Genre les gens disent que c'est mieux que le dernier Spider-Man, le film. il y a des moments que tu vois pas souvent en jeu vidéo, tu vois, un peu triste, ou des moments très joyeux, mais il y a des moments très tristes, je voudrais pas spoiler, mais les mecs, ils y ont pas été avec le dos de la cuillère.
Il y a du drama, quoi.
Il y a du drama, et puis en termes de technique, il y a des trucs, ça c'est des trucs qui t'intéresseront toi en côté pro, mais tu vois, ils ont enregistré toutes les voix avec plusieurs intonations selon...
Ouais, j'ai vu passer ça, ouais.
voilà, le feeling de comment ça se passe dans le jeu, etc. Du coup, il n'y a pas vraiment cette sensation de dialogue qui tombe complètement à côté de la plaque parfois, puisque le moteur du jeu est capable de placer la bonne ligne de dialogue avec la bonne intonation en fonction de comment
ce
le
qui
jeu
se passe à l'écran. Ouais, tout à fait,
exactement. Ouais. Et du coup, la PS4 se porte plutôt bien, puisque ça lui fait une exclue assez violente. Et comme tu sais que God of War était un petit jeu qui a plutôt bien marché juste avant, je pense que chez Sony, on se frise les moustaches en mode genre, écoutez, nous, c'est pas trop compliqué le métier, ça va, on gère. Donc voilà, je vous laisse regarder ce jeu de plus près. En tout cas, ne passez pas à côté si vous vous dites que c'est une adaptation de super-héros et que ça va être pourri, que vous n'avez pas du tout regardé, rien lu, etc. C'est apparemment super bien. Et le jeu, l'histoire principale, c'est à peu près 25 heures de gameplay.
Pas mal.
Donc c'est pas mal et en même temps, c'est pas débile, tu vois. Donc t'es pas sur un jeu où il faut 70 heures pour tout finir, donc ça c'est aussi accessible. Tu peux même raccourcir si tu zappes certains trucs, mais pour avoir un peu les costumes et varier les pouvoirs de ton perso, tu peux quand même pousser le truc jusqu'à 25 heures sans forcer. Et une idée à la con pour finir là-dessus, tu vois, dans ce genre de jeu, généralement tu chopes des pouvoirs en fonction justement du costume,
ouais.
Mais ça t'oblige des fois à porter un costume qui t'intéresse pas parce que tu veux le pouvoir. Et ben là non, tu peux mettre n'importe quel costume, une fois que tu l'as, le pouvoir, tu peux le balancer sur un autre costume.
D'accord.
Comme ça, tu peux avoir, t'as le côté cosmétique, ouais. Mais le gameplay est pas impacté par ça directement, et c'est tout bête, mais c'est hyper intéressant d'avoir fait ça. Et je trouve que c'est partie des bonnes idées de ce Spider-Man, qui fait partie des jeux où je me retiens très fort pour pas y aller. J'ai pas le temps. Arrêtez maintenant.
Et mais du coup, on va arrêter avec les jeux et on va passer du côté des apps. Et tu vas nous parler, alors, c'est une surprise pour moi, d'une app musicale.
Mais oui, t'es pas prêt, là. Hein.
Non, c'est la rentrée. Il s'est passé des choses, c'est après, pendant les vacances, là,
Mais ouais, je te dis, j'achète des micros,
un de ces quatre, il va sortir en mix et je vais être le premier surpris.
Je vais faire des albums et tout, ça va être n'importe quoi. Non, c'est juste parce que justement, il y a Gadget dans le titre. Alors déjà, ça m'amuse, mais c'est Korg Gadget. Je voulais juste vous signaler que cette application était assez rigolote et disponible sur iOS et Mac. C'est notre ami Korg qui se remet à faire des logiciels de musique. Et avec Korg Gadget, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent une multitude, il y a plus de 30 petits synthés, boîte à rythme, etc., à intégrer dans votre DAW, votre Music Station. C'est quoi le terme consacré?
C'est Digital Audio Workstation, ouais, DAW, voilà. C'est ça. Il y a un équivalent français, mais que j'oublie à chaque fois, donc on s'en fout.
Mais moi aussi, c'est horrible. Et du coup, tu te retrouves avec un soft qui est hyper joli, parce qu'ils ont voulu mettre vraiment en avant chaque gadget, donc chaque synthé, pour simplifier, et pas que des synthés, mais faire un truc qui soit suffisamment joli pour vous donner l'impression d'avoir l'objet physique, finalement. C'est un gros tas de pixels. Et ils vendent ça pour un prix ultra cher pour une appli iOS, et ultra pas cher pour une appli qui permet de faire du son à ce niveau-là, puisque l'appli iOS est vendue 45 balles, je crois.
Oui, ça va.
45 balles pour un soft de cette qualité-là. A priori, vu les reviews, allez voir. Je vous mettrai le lien, évidemment. Tout le monde est dithyrambique. Les gens adorent. Donc, connaissant les musiciens et sachant que les mecs ne pardonnent pas grand-chose, j'en ai déduit que c'était plutôt pas mal. Les reviews que j'ai vues sur le net sont vraiment pas mauvaises du tout. Et ça arrive donc sous macOS aussi. Je pense que ça sera un truc qui va être plutôt bien reçu et que vous pouvez incorporer justement sur Mac. Juste importer ces synthés dans votre Digital Audio Workstation. Donc je pense que Fastkill va plutôt être intéressé par le truc.
C'est ce que j'allais dire, ouais, je vais aller voler une tablette et puis je vais essayer ça tout de suite.
Alors, je vais surtout essayer, il faut absolument que tu en voles une parce que j'aimerais bien avoir ton avis et surtout, comme ça c'est un truc que tu n'as jamais fait, j'aimerais bien savoir si on arrive à faire du bon son sur iPad. Je sais qu'on peut le faire parce que je suis sur YouTube plein de mecs qui sont des tueurs là-dessus et qui ont déjà prouvé largement qu'on pouvait faire un morceau complet.
Ah mais j'ai absolument aucun doute. Ouais.
Mais du coup, avoir ton ressenti et ton feeling là-dessus, ce sera plutôt rigolo et en tout cas, le soft est mignon. Et il y a une version LE gratuite pour essayer avec 3 gadgets uniquement pour voir la gueule du truc. En revanche, je vous préviens tout de suite, n'achetez pas cette version, ne déloquez pas cette version. Vous la mettez à la poubelle si ça vous plaît, vous achetez directement la version complète. Apparemment, il y a une espèce de problème. Si tu fais un morceau avec la version LE, t'arrives pas à l'exporter.
Ah, ça c'est embêtant.
Il y a un bug en fait qui fait que le truc, si tu bosses des heures sur ce morceau, tu n'arriveras pas à le virer, enfin à le sortir de l'application. Et il y a pas mal de mecs qui râlent avec là-dessus. Alors je sais pas si c'est eux qui sont nuls ou s'il y a un vrai problème, mais dans le doute, faites ma méthode, au moins vous serez couverts.
On reste dans les apps pour parler d'une nouvelle fermeture du côté de chez Google.
Ah bah écoute, en attendant la fermeture de Google Plus, qui tarde
à venir. Plus tarder, c'est ça.
Écoute, nous savons de source sûre pour parler de Google Plus deux secondes qu'apparemment Google France a fermé sa page à eux.
D'accord. Ouais, sur donc Google ça sent Plus. Pas bon. Hein.
Donc c'est que voilà, je pense que on va y arriver. Hein. Peut-être qu'un jour on va s'en débarrasser. Mais en attendant, c'est pas de celui-là dont il était question. C'est Inbox, leur client email concurrent de Gmail, qui avait sorti. D'une manière, enfin, on n'avait pas trop compris d'ailleurs pourquoi ils avaient sorti ça. On s'attendait à ce qu'ils, du coup, qu'ils abandonnent Gmail.
Mais c'était pas le truc où ils avaient racheté Sparrow pour ça, justement, ou
alors, en fait, exactement. Donc, Sparrow, pour ceux qui se rappellent, c'était un client mail de ouf sur iOS et macOS, qui mm-hmm. était assez génial. Et du coup, ils avaient racheté moi, ce que j'avais compris, c'est qu'ils avaient acheté le soft pour faire un nouveau client d'email, etc. Mm-hmm. Depuis, j'ai dîné avec mes sources secrètes infiltrées dans la pomme. Et c'était plutôt ce qu'on appelle du acquire. Ils avaient besoin surtout du moteur de mail de Sparrow. D'accord. C'était ça qui les intéressait. Bref, long story short, ils ont développé quand même cette inbox. Il y a des gens de chez Sparrow qui étaient impliqués. C'est comme ça qu'on a eu pas mal de feedback cette semaine, puisque quand ils ont annoncé la mort du truc qui va fermer, donc Inbox fermera en mars 2019, mm-hmm. dans 6 mois à peu près, un des anciens fondateurs de Sparrow n'a pas caché son dédain pour Inbox en disant « mais de toute façon, ce truc aurait dû crever day one, n'avait aucun intérêt à exister ». Et j'ai jamais compris ces réunions branlettes qu'il y a eu autour de ce produit.
Bim ! Ok, ça c'est clair.
Le tout sur Twitter, hein, tu vois, comme en mode genre, mais il est plus chez Google en même temps. Donc il a pu se lâcher. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu des bonnes vieilles bastons en interne, puisque Gmail a évolué pour inclure des fonctionnalités qui ont été testées dans Inbox. Et puis du coup Inbox, son intérêt a été un petit peu amoindri. Il y a des choses qui étaient plus avancées dans Inbox qui ne seront jamais portées sur Gmail, et les mecs ont décidé de fermer le robinet et de clore l'application, alors que d'après les chiffres qu'il y avait, il y avait quand même 100 000 personnes qui téléchargeaient le truc par mois encore.
Ah ouais.
Mais par rapport à Google, j'imagine que c'était des poussières. Ouais. C'est des peanuts, donc les mecs ont fait genre salut, on ferme les vannes. Bon, je suis un petit peu... Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Mm-hmm. Mais nous avons des amis qui sont très tristes. Sur Twitter, j'ai des noms. Moi, je pense qu'il y aura largement de quoi trouver chaussure à son pied en termes de clients tiers. Si vous en cherchez un qui est pas mal du tout sur iOS et Mac, actuellement, il y a Spark. Mais Spark arrive sur Android un jour. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il arrive sur Android, parce que ça fait longtemps qu'ils me disent que ça arrive sur Android, mais j'ai toujours pas de date. En tout cas, ça, c'est un client à surveiller de près qui est vraiment pas mal, avec une boîte qui bosse plutôt très bien.
Eh ben écoute, c'est noté. On va passer du côté de la tech avec le Pocophone F1.
Ah ouais, c'est pas un nom qui te fait rêver, ça?
Pas du tout. Ça me fait rigoler, en revanche.
Moi non plus.
Le Pocophone. On dirait un nom de Pokémon ou un truc...
Tu vois, dans les langues étrangères, tu te dis, mais comment ça sonne? C'est rigolo, quoi. Enfin, bref. Qu'est-ce que c'est que le Pocophone F1?
C'est un petit téléphone.
C'est un petit, c'est Poco et Poquito. Non, on va arrêter deux minutes. C'est la nouvelle entreprise. C'est la nouvelle idée de Xiaomi pour vendre des téléphones pas chers.
D'accord.
Alors, le Pocophone, c'est en fait une nouvelle marque de Xiaomi qui part un petit peu à l'assaut de OnePlus, avec un téléphone où y a à peu près tout ce que tu veux d'un téléphone moderne, avec un processeur bien, avec un écran plutôt grand, etc. Mais un prix tout petit. Le but du jeu étant de vendre la bestiole autour de 350 €. Et là où ça devient intéressant, c'est que pour pouvoir sortir un téléphone à ce prix-là, t'es forcément obligé de faire des concessions, le tout étant de les faire intelligemment. Donc dans les deux petits liens que je vais vous balancer avec le billet de ce podcast, vous verrez un test de chez Numérama en français, et fait par Julien Cadeau, que vous connaissez bien, et une vidéo de l'américain MKBHD, qui sont ultra surpris, parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça soit une grosse merde, on va pas se mentir. Avec un nom pareil, les gens étaient un peu circonspects. C'est un téléphone en plastique, avec une encoche à l'iPhone X, comme à peu près tous les téléphones Android qui copient l'iPhone X depuis un an maintenant. Donc il y avait un peu... on se disait, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ils ont grugé sur la façon dont l'écran est monté, sur la coque en plastique, il n'y a pas de NFC, etc., etc. Mais ils n'ont pas oublié de mettre les features les plus importantes. Alors oui, bah, il sera pas étanche, mais ça va faire un téléphone Android rapide, ça va faire un téléphone qui est en USB-C, et du coup avec une vraie batterie, 6Go de RAM, le fameux Snapdragon 845 qui va équiper un peu tous les téléphones musclés de cette année. Et bah, du coup, on se retrouve avec un truc d'un rapport qualité-prix hyper intéressant pour les gens qui veulent juste un smartphone sous Android qui est basique mais qui fait le boulot. Alors après, vous prendrez pas les plus belles photos de vos vacances avec, hein, faut pas déconner non plus, mais ça fonctionne en pleine lumière, mais dès que ça baisse un peu, c'est une horreur, hein. Voilà, la caméra du Pocophone, il fallait bien gratter un petit peu quelque part. Donc bah, à suivre. On fait pas de test hardware encore sur Geekzone, peut-être en 2019. Mais la bestiole, en tout cas, si vous cherchiez un téléphone encore moins cher que moins cher d'habitude, mais avec un vrai processeur, parce qu'on peut trouver moins cher, même chez
Xiaomi.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais.
C'est là où c'est intéressant. Xiaomi sort des téléphones qu'on peut acheter sur les sites les chinois pour moins de 200 euros. Mais là, on a le top du top en CPU, etc. Donc c'est un tueur finalement de OnePlus, tu vois.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est pour ça que nos amis de chez Xiaomi ont fait ce Pocophone. C'est pour aller faire chier leur ami et néanmoins concurrent OnePlus qui bah, leur pique des parts de marché sur ce segment-là. Et en plus, comme eux montent les prix, bah, ils se disent il y a peut-être moyen de leur couper l'herbe sous le pied. Voilà.
On reste dans les téléphones, mais on passe de l'autre côté de la barrière, puisque c'était avant-hier, la conférence Apple.
Exactement. Alors là, c'est pas mal, hein, parce que donc on vient de parler d'un téléphone à 350 euros.
Oui, on va passer dans une autre gamme de prix, là. Oui.
Voilà, maintenant, on va parler 350 euros, c'est le prix de l'adaptateur pour le
c'est
le
ça,
casque,
tu rajoutes 1000 balles, en fait, et t'as le prix de l'équivalent chez Apple.
Alors, c'est un peu normal, hein. C'est comme dans le marché de la voiture, c'est comme dans tous les marchés qui se développent. On a de tout. Alors, la conf Apple, elle était intéressante. Je vais vous mettre un lien vers la petite vidéo qui va bien. J'ai fait une petite news sur Geekzone là-dessus avec la conf Apple en 2 minutes. Et c'est rigolo parce que c'est une vidéo qui vient de chez Apple. Et ça, je trouve ça assez drôle. Donc les mecs prennent leurs images et refont un montage avec des trucs assez bien trouvés pour vous présenter bah, tout ce qu'ils ont annoncé, les nouveaux téléphones, la nouvelle Apple Watch, blablabla, bla, bla, en 2 minutes. Mm-hmm. Et bah justement, alors on va essayer de faire court. On va pas faire 2 minutes, mais on va faire court quand même pour parler justement des annonces qui sont... Bah oui, au niveau des tarifs, ça va grincer des dents, mais c'est pas le problème, vous allez voir, on va en parler tout de suite. On va commencer par un truc qui était... les gens attendaient les iPhones, hein, donc ils ont commencé la conf par l'Apple Watch, mais en fait, pour moi, c'est l'Apple Watch qui calme tout le monde, parce qu'ils ont vraiment fait des efforts de ouf techniquement, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont sorti. Ils ont agrandi l'écran, ils l'ont un petit peu aplati par rapport au modèle de l'année dernière, mais bah, elle reste toujours un peu plus épaisse que la première,
mm-hmm.
mais avec une autonomie bah, qui permet de tenir la journée, c'est quand même pas mal pour une montre.
Oui, c'est utile, ouais.
Assez utile, sinon c'est un peu chiant. Mais le fait d'avoir agrandi l'écran de 30%, ça permet d'avoir des applications et des faces. Donc le cadran de la montre bah, devient beaucoup plus utile pour rajouter des choses à l'intérieur.
Mm-hmm.
Avant, c'était vraiment une fonction et après, il fallait zapper. Donc, c'était un peu chiant. Et là, ils ont fait en sorte d'avoir deux modèles. Donc c'est 40 et 44 mm. Donc c'est vraiment plus grand que ce qu'ils avaient un petit peu avant. Et enfin, c'est surtout la taille de l'écran à l'intérieur de la coque qui va changer.
Mmh.
Et on est sur un produit qui est enfin mature. Enfin, il était déjà mature. Les gens vont me taper si je dis qu'il n'était pas mature. Mais là, je le trouve hyper sexy. Ils ont fait un modèle d'entrée qui est à 429 euros. Et après, en fonction des finitions, des bracelets, etc., ça peut monter jusqu'à 800 euros.
Mmh.
Sachant que chez nous, je pense que très honnêtement, si vous n'avez pas besoin de la fonction cellulaire, vous prenez juste le modèle GPS, les modèles à 429 euros ne sont pas du tout des modèles au rabais. Il y a des modèles qui sont vraiment très, très sexy, il n'y a aucun souci là-dessus. Si je vous passe, alors il y a 1 milliard d'options... Donc on pourrait détailler rien qu'au niveau software. Ils ont changé au niveau du hardware un truc qui pour moi est hyper intéressant, c'est la façon dont fonctionne la molette sur le côté,
mm-hmm.
qui est maintenant avec le feedback haptique. Tu sais, le petit truc qui te fait des,
ouais, tout à
des
fait,
petits
ouais.
tic-tics, qui te donne des petites
les
sensations.
Petits tic-tics.
Voilà les petits tic-tics. C'est, c'est le truc qui fait que bah, quand vous appuyez sur le votre iPhone, ça simule un clic très facilement.
C'est
en fait.
Ça, ouais.
Et c'est assez perturbant parce que tu dis, mais en fait, il bouge le truc. Non, il bouge mm-hmm. pas. Et tu crois qu'il bouge, mais en fait, il bouge pas. Les derniers trackpads de Mac sont comme ça. Les boutons depuis l'iPhone 7, le bouton central des iPhone 7, 8 sont comme ça. C'est assez pas mal pour dire un truc qui n'est pas français du tout, mais vous mm-hmm. l'avez compris. Et du coup, cette petite molette, bah, ça change la façon dont on va vraiment se servir des menus, etc. Ça leur permet justement de changer aussi l'interface, puisque maintenant les gens vont moins zapper les trucs sans faire gaffe, tu vois.
Mm-hmm.
Donc c'est plein de petits mélange software, hardware qui vont faire en sorte que le produit évolue dans la bonne direction. Et la surprise qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, c'est qu'ils ont encore augmenté les fonctionnalités autour du monde de la santé. Et là, ils ont carrément rajouté la possibilité de faire un électrocardiogramme.
D'accord.
Alors, la FDA l'a validé, c'est un vrai ECG, comme disent les Américains. Sauf que nous avons nos petits amis de la partie santé de Geekzone qui se sont vite empressés de me dire « Oui, mais attention, c'est un ECG de base qui n'a rien à voir avec les trucs qu'on fait avec le matériel médical normal, ça peut pas vérifier tous les trucs du cœur, etc. » J'ai envie de dire « Oui, d'accord. »
C'est un premier pas, on va dire.
mais j'ai envie... C'est, heureusement, peut-être, tu vois, on va pas mettre tous les cardiologues au chômage, déjà. Mm-hmm. Et puis, non, plus sérieusement, ça reste un outil qui peut être pas mal. Après, moi, j'ai une vision du truc qui est un peu biaisée cette semaine, puisque j'ai failli perdre un très, très bon ami à moi d'une crise cardiaque cette semaine, mm-hmm. Qui est sauvé à l'hosto, tout va bien. Mais du coup, sur les problèmes cardiaques de ce genre, il a fait une crise cardiaque lente, il était pas bien depuis une semaine. Avec ce genre de produit, je pense qu'il aurait été chez son toubib beaucoup plus vite. Alors après, justement, le danger, il y a déjà des papiers qui sont sortis dans ce sens, c'est de se dire, oui, mais si le truc se plante, tu vois, ouais, on n'a pas ça. De recul là-dessus. Mm-hmm. Ah bah non, je suis rassuré, je suis pas en train de faire une crise cardiaque, mon truc me dit que je vais bien. Oui, évidemment, mais je pense qu'Apple n'est pas complètement débile sur ce genre de truc. Si jamais il y avait la moindre erreur, c'est tellement se tirer une balle dans le pied qu'à mon humble avis, ils n'auraient pas sorti la feature. Mm-hmm. Bon, voilà, ils ont le soutien de la communauté des cardiologues américains, machin, etc., enfin américaines. Donc, on verra ce que ça donne à terme, mais je suis plutôt confiant, on va dire.
Ok.
On verra. Mais en tout cas, l'Apple Watch, si vous hésitiez, là, c'est le modèle de cette année, est quand même plutôt sexy.
Et puis, alors, du côté des téléphones?
Ah, ben alors, c'est compliqué. Alors, oui, ils ont tous des noms. Ils ont des noms nuls cette année. Tous.
Oui, j'ai vu passer des trucs et je me suis dit, tiens, c'est vraiment les téléphones Apple, ça?
C'est, ouais, alors au niveau de la marque, bon, alors, après, il n'y a rien de surprenant puisque c'est comme tous les ans, on a juste oublié finalement. Donc, on a l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Alors, évidemment, tout le monde va dire XR, XS, XS Max.
Oui, bah oui.
Et c'est pas génial, et ça sonne pas top, et c'est pas beau, on est d'accord.
Alors. Ça fait un peu iPhone XS, en fait, je sais pas, c'est bizarre.
Disons qu'on s'est beaucoup moqué des noms des Samsung, du machin, et bon, là, ça commence à, va falloir revenir à des trucs un peu plus simples, les mecs. Tiens, vous êtes le iPhone XS Max, je crois que là, faut s'arrêter. Après, c'est compliqué. Mais, fondamentalement, c'est pas pire que iPhone 8 Plus, c'est, tu vois,
ouais, non, 8S c'est clair.
Plus, on a déjà eu ces trucs-là. Donc bon, alors ça a fait tiquer parce qu'on s'attendait un petit peu mieux cette année, mais c'est j'ai envie de dire, c'est logique. Alors le décryptage, il va très vite. Hein. C'est les nouveaux téléphones à base de A12, donc A12 c'est le nouveau processeur Apple à l'intérieur de ces bestioles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en 7 nanomètres. Je crois que ce sont les seuls actuellement à réussir à faire des pros avec cette finesse de gravure, ce qui est hyper intéressant d'un point de vue dégagement de chaleur et performance. Mmh. Et ensuite, le XS, c'est un 10S. Donc, c'est une évolution du modèle de l'année dernière. Ça ne change rien d'un point de vue design. On est vraiment sur le même. Il y a maintenant une finition dorée. Mais on va dire que si vous n'avez pas le doré dans la main, il n'y a aucun moyen de savoir que vous avez un 10 ou un 10S. Mmh. Ce sont vraiment les mêmes. Les prix pour le 10S, ça commence à... T'es prêt ?
Oui.
Ça va bien se passer. 1159 euros pour le 64 gigas.
Beaucoup trop cher pour un téléphone à mon goût.
Bah oui, mais c'est pour ça. Mais je vais en parler après, ça, parce que justement, il y a beaucoup à dire sur les prix. Le XS Max, c'est une évolution du... j'ai dit XS Max, tu vois, ça commence déjà. Donc c'est le 10S Max. C'est exactement le même que le 10 de l'année dernière, mais c'est celui que j'attends. C'est la version Plus, donc, hein, comme son nom l'indique. Mais ils ont décidé de mettre Max maintenant, au lieu de Plus, whatever. Et c'est 1259 euros pour 64 gigas. Cette fois, on a un écran de 6,5 pouces. Pour vous donner une idée de la taille, en fait, ça fait la même taille quasiment qu'un iPhone 8 Plus, sauf que vous avez qu'un écran dans la main.
D'accord.
Vous n'avez plus de haut, là où il y a le haut-parleur, etc. Mmh. Vraiment, c'est assez bluffant. Visuellement, ça défonce pas mal. Hein. Vraiment, c'est plutôt très beau. Sauf qu'effectivement, au niveau tarif, c'est plutôt très beau aussi. Mais j'y reviens dans deux secondes, laissez-moi finir. Et ensuite, nous avons le petit nouveau, l'iPhone XR, qui lui démarre à 859 euros. Parce qu'en fait, ils ont fait un truc plutôt malin, de se dire, ah, il nous faudrait quand même un iPhone moderne, mais qui soit un peu moins cher, si on connaît.
Un peu moins cher, oui. Ça reste 800 balles quand même. Hein.
Bah, en fait, c'est le prix de l'iPhone 8 Plus de l'année dernière.
D'accord.
Grosso merdo, tu vois. La grosse nuance par rapport à ce qu'ils avaient fait, tu te rappelles de cette, des iPhone 5C, des trucs en,
couleur
en plastique.
Ouais.
Bon, ça, c'était un peu le fail parce que c'était vraiment des iPhones au rabais, mais vendus un peu cher pour un truc neuf, tu vois.
Mm-hmm.
Là, c'est pas du tout la même politique sur le XR. C'est un téléphone qui a exactement les mêmes entrailles que le 10S et le 10S Max.
Mm-hmm.
Donc, il a le A12, il a tous les trucs qui vont bien au niveau du, vraiment de la puissance du téléphone. Là où ça change, c'est que l'écran est un LCD et pas un écran OLED, ce qui change énormément le prix de revient au niveau FAB. Alors évidemment, comme c'est un écran LCD Apple, ils l'ont appelé Liquid Retina, parce que bon, bah, il faut faire un peu de marketing quand même,
bien sûr.
Et dire que c'est le meilleur écran LCD de la Terre. Et comme l'ancien était vraiment très bon, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ça se trouve, ils ont raison. Hein. L'astuce dans l'histoire, j'ai envie de dire, c'est que pour les trois quarts des gens, cet écran est largement suffisant. Si t'as pas un écran OLED à côté, tu t'es très très content de ton écran LCD. La grosse nuance par rapport au XS, c'est que le LCD ne se travaille pas comme le OLED en termes de fabrication, ce qui fait que les bords sont un tout petit peu plus larges autour du téléphone. Donc tu peux pas coller l'écran complètement, parce que l'écran OLED, tu peux vraiment l'incurver sur les bords. En fait, il est au niveau de la fabrication, il est plié dans la coque, si tu veux.
D'accord.
Alors que là, tu peux pas le faire avec, tu peux pas faire exactement ça avec du LCD.
Et en termes de dégagement de chaleur, c'est pareil ou bien?
Ouais, non, ça va apparemment. Les mecs, en tout cas, sur les premières prises, parce que pour l'instant, personne l'a eu en test. Les premières prises en main qui ont eu lieu après la conférence avant-hier étaient plutôt très positives. Derrière, ils ont rusé sur d'autres trucs, ce qui est l'appareil photo. L'appareil photo, il n'y est pas avec tous les objectifs que tu as sur le XS et le XS Max. C'est un objectif simple, sauf que c'est pareil, c'est pas un objectif au rabais, c'est le même en fait que l'objectif principal des deux autres téléphones. Et il y a toutes les fonctionnalités de portrait, de bokeh. Alors ils ont fait vraiment un nouveau pas en avant au niveau photo là-dessus, qui est assez bluffant. Mais là, en podcast, ça rend pas beaucoup. Mais regardez les vidéos qu'ils ont fait. En gros, tu peux faire ta mise au point sur ton sujet, mais tu peux la changer après avoir pris ta photo.
D'accord.
Donc si le background était avec donc l'effet de bokeh flouté, hein, pour le commandé mortel, tu peux changer l'effet pour en mettre moins, plus, etc. Et c'est géré avec notre ami l'intelligence artificielle, qu'on nous met à toutes les sauces maintenant, même si c'est pas vraiment l'intelligence artificielle maintenant, c'est compliqué.
Les algorithmes.
On a des algorithmes qui font leur petit travail pour justement être dans l'axe qui va bien, et c'est pas juste du flou appliqué à la photo derrière votre sujet principal, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, sinon tout le monde le ferait. Et comme vous le savez, personne ne fait. Donc, c'est que c'est un peu plus dur que ce que certains voudraient penser. Mais très honnêtement, pour un téléphone prix d'entrée à 859, on est sur un truc qui est absolument pas un bas de gamme, puisque de toute façon, ça sera jamais le marché d'Apple. Et le 256Go coûte quand même 1029€, donc on est sur un téléphone à plus de 1000 balles. Donc, voilà, super. Et pour ce prix-là, tu peux choisir entre 6 couleurs. Mais sinon, t'es sur les mêmes entrailles que les modèles haut de gamme. Donc, c'est plutôt une affaire de goût et de savoir si t'économises 400 balles, en fait. Qui est donc le prix du Pocophone. c'est pour ça qu'on, je voulais vous parler du prix. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui revient tous les ans quand Apple annonce ses nouveaux matos. Quand on est sur ce genre de produit, on est là pour le soft. Si vous voulez un téléphone pour faire du WhatsApp, je le dis tous les ans, mais si vous voulez faire du Snapchat, WhatsApp, vous voyez un mail par jour, et savoir comment ça se passe sur Facebook et passer des coups de fil, incroyablement, oui, un téléphone Android à 300 balles, ça va faire très très bien l'affaire. Et c'est absolument une question. Il y a deux trucs. Il y en a qui veulent le téléphone pour une question d'image, un peu comme je me retrouve dans les embouteillages avec des mecs qui ont des Audi derrière moi. Il va pas plus vite que mon IQ, tu vois. Moi, quand je vais en ville à Paris, j'ai pas besoin d'une grosse bagnole, ça. Je préfère me garer facilement. C'est un peu pareil. Il y a le côté, genre, oui, mais moi, j'ai une grosse voiture. Bon, bah, moi, j'ai un iPhone. Il y a des mecs qui sont dans cette optique-là. En Asie, c'est un truc qui se fait à peu près souvent, hein, dans certains pays. Coucou la Chine. Mais faut juste réaliser que l'aspect important d'un téléphone de chez Apple, c'est iOS. et iOS, pourquoi ? Pas parce que l'OS est parfait.
Non, c'est pour l'écosystème, en fait.
C'est l'écosystème, c'est les applications qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas d'équivalent sur Android pour plein de domaines. On parlait de la musique tout à l'heure, mais de juste qu'il n'y a pas très très longtemps, il était impossible de faire des softs de musique avec la latence qu'il y avait dans Android au niveau du système lui-même. C'est pour ça qu'il y a très peu d'offres de ce côté-là. Ça a changé, ça a évolué, Google travaille là-dessus, mais voilà, c'est historiquement, ils sont à la bourre sur plein de trucs. Et moi, d'un côté, sur tout ce qui est soft de productivité classique pour écrire, etc., l'offre Android est catastrophique. Et encore une fois, l'écosystème ne permet pas de travailler avec, tu t'envoies tes docs, tout est synchronisé en permanence, etc. Et c'est juste hyper simple et en plus backupé en permanence. Alors, on peut ruser à notre niveau, Fasque et moi, on peut se démerder. Hein. On peut mettre en place des workflows qui fonctionnent sous Android quasiment de la même manière. Mais ça sera jamais aussi sexy et ça sera jamais aussi évident et facile à expliquer aux autres. Donc, le truc qui est juste zappé dans les trois quarts des papiers que je lis actuellement, et ça m'énerve, c'est cet écosystème, c'est la qualité du logiciel qui va avec. Et développer un truc comme iOS, mais ça coûte des tonnes de thunes, les mecs. Tu peux pas donner ton téléphone à 400 balles. Faut pas oublier que tous les Chinois qui balancent des téléphones à des prix cassés, ils ont absolument zéro développement côté software.
Ouais, tout à fait.
Alors, des fois, ils ont une surcouche. Génial. Trois développeurs et demi. Bon, j'exagère, mais c'est Google qui se tape le gros du boulot au final. Donc, là où ça va être intéressant, c'est de voir justement quel va être le prix des flagships Android cette année. Et le premier gros qui va sortir, et qui va sortir en France, enfin, ça va être le prochain Pixel, qui va être annoncé normalement le 9 octobre, si je dis pas de bêtises, donc très bientôt. Et là, on va avoir ça va être intéressant de voir quels tarifs vont être proposés, quelles fonctionnalités vont être proposées. Mais c'est pareil, Google n'est plus du tout sur une optique de vendre des téléphones à 400 balles comme on l'était à l'époque des Nexus, tu vois. Donc, il y a une montée en gamme et après, il faut réaliser ses besoins. Voilà, si vous êtes pas en train de faire de la route, vous achetez pas une grosse bagnole. Si vous avez juste besoin de 2-3 applications, il est évident que vous n'allez pas claquer 1400 balles, sauf vous avez un ego de ouf. Non, mais tu vois, moi, je vois des gens avec beaucoup d'argent qui font rien avec leur téléphone, qui ont acheté des iPhone 10. Quand je vois comment ils sont configurés, mon petit cœur saigne. Je me dis, putain, mais les mecs, quoi. Mais voilà, ils ont acheté un iPhone 10 comme t'achètes une bagnole un petit peu sexy parce que tu te fais plaisir alors que tu fais 20 bandes par mois, tu vois. Je trouve ça un peu dommage. Mais je pense qu'il y aura un podcast à faire avec des gens du milieu des pommes et des gens qui sont pas du milieu des pommes pour justement un peu débroussailler tout ça et puis tordre le cou à 2-3 idées parce que les articles qu'on voit dans la presse généraliste cette semaine sont assez catastrophiques, malheureusement.
Allez, on va parler d'autre chose. Je voulais juste toucher un mot très rapide de ce qui se passe pour Electronic Arts du côté de la Belgique, parce que ça m'a fait beaucoup rire.
Ça y est, t'es retourné en Belgique, ça y est.
Ouais, je m'intéresse à ce qui se passe par chez nous. Ça va aller vite, hein, parce qu'en gros, il n'y a pas de grosses infos, mais ça m'a fait beaucoup rire. On en a parlé dans les précédentes torréfactions, hein, le gouvernement belge fait partie de ces gouvernements qui avaient déclaré que donc les lootbox, les fameuses lootbox, c'était du jeu au sens légal du terme, hein, du gambling comme on dit, et que donc du coup ça rentrait dans une certaine catégorie et que ça devait être interdit à certaines tranches d'âge par exemple. Electronic Arts avait dit non pas du tout, c'est pas vrai, c'est même pas ça, et du coup elle fait semblant de rien, et le gouvernement belge s'est pas laissé faire, ils ont lancé donc maintenant une enquête criminelle sur Electronic Arts. Donc Electronic Arts est sous le coup de la justice pour le moment en Belgique. Alors on n'a pas plus d'infos parce que ça vient d'être annoncé, mais ça promet d'être intéressant. Et on va s'y intéresser dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, savoir un peu comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, fallait pas faire le malin du côté de chez Electronic Arts. Il suffisait pas de dire non, c'est pas vrai. Manifestement, le gouvernement belge l'entend pas de cette oreille. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand on fait un peu chier Electronic Arts. Tu voulais reparler d'Apple encore une fois.
Ouais, vite fait, mais à la base je voulais linker les deux sujets, mais c'est vraiment pour la blague et pour les gens qui vont dans les Apple Store du côté de Paris pour vous annoncer que l'Apple Store des Champs-Élysées va enfin se concrétiser. On a une date d'ouverture qui sera en novembre, donc c'est plutôt bientôt, parallèlement à ça, ils vont fermer l'Apple Store du Louvre, qui du coup lui était ouvert depuis 2009, c'est le plus vieux de France. Ils n'ont pas renouvelé leur bail et il faut savoir qu'effectivement le nouveau va leur coûter la bagatelle de 14 millions d'euros par an. Donc forcément ils n'ont peut-être pas envie de payer les deux en même temps, surtout que celui du Louvre, il n'y a pas de vitrine, il faut rentrer dans le Louvre, il faut savoir qu'il est là, il était un peu petit, il fallait refaire des travaux, etc. Ils ont fait genre, allez salut, on en fait un tout neuf sur les Champs-Élysées. Ça fait des années qu'ils attendaient un emplacement qui leur aille. Là ils ont fait une plutôt bonne affaire, mais ceux qui ont fait une vraie bonne affaire, c'est les Allemands du groupe du fonds de pension BVK, parce qu'eux ils ont acheté le bâtiment pour 600 millions d'euros. Du coup, avec un locataire déjà qui paye 14 millions par an,
je trouve ça va être rentable. Oui.
Voilà, en termes de rentabilité, je trouve qu'ils ont fait une plutôt bonne opération. Pour ceux qui connaissent les Champs, ça remplace une boutique Weston qui s'est déplacée un peu plus loin et qui du coup, eux, ils avaient une toute petite vitrine, etc. Mais Apple a fait des énormes travaux, ce qui fait que maintenant les baies vitrées engloutissent la façade et les fenêtres du premier étage. Mm-hmm. Et ils ont fait un truc qui est plutôt pas mal. Et quand vous aurez assez d'argent pour vous acheter votre 10S ou pas d'ailleurs, vous pouvez toujours aller les voir sur cette boutique là au mois de novembre. Du coup ça devrait, on n'a pas la date exacte, mais on sait juste que c'est mois de novembre. Ils vont transférer d'ailleurs une bonne partie du personnel du Louvre dans cette boutique.
Et pas de rente cette semaine, on garde ça pour la prochaine, on va pas recommencer tout de suite en râlant non plus.
Non, mais en plus voilà, tu vois, j'aurais pu râler, j'ai râlé de manière
diffusée.
C'est ça, tu vois, un petit peu sur PUBG, l'air de rien. Un petit peu sur nos amis de chez Google, un petit peu sur les prix quand même de chez Apple. Je comprends bien les gens qui râlent. Et pour terminer la discussion sur les prix Apple, moi je note juste un truc, si on doit finir là-dessus, c'est que il y a un vrai, quand on arrive sur des prix genre 1 400 euros, boum, sur un modèle à 256 gigas, tu vois, pour le XS Max, qui serait moi personnellement le modèle que j'aurais envie de prendre. On est sur un seuil psychologique assez hallucinant, puisque donc on peut trouver des PC très bien à 600 balles de nos jours. Et donc tu te dis, un téléphone à 1400 balles, même si tu te dis que c'est ton ordinateur, ton appareil photo, que le truc fait tout finalement, on arrive sur des zones de prix qui sont assez hallucinantes. Je sais pas du tout comment ça va évoluer à l'avenir. Puisque la dernière fois qu'on a vu des téléphones à 1000 balles, on s'est dit, c'est fini, ça peut pas monter plus haut. Là je me demande où on est parti là. Quand est-ce que ça s'arrête le train, monsieur? J'ai mal.
Ça va trop vite.
Ça va trop vite. Donc je pense que ça va être intéressant, mais c'est surtout que là je vois des messages passer de gens qui disent, mais moi j'adore et tout, je veux, mais là on est vraiment sur des prix, je peux pas. Et j'en arrive à me dire, bah oui, mais c'est un peu comme moi quand je vois une bagnole que j'adore et tu te dis, bah j'en ai pas besoin, mais en plus de toute façon je peux pas. Et on arrive sur ce genre de deal, comme certains déjà s'étaient fait la réflexion sur des Mac, tu leur dis, bah prends un Mac, c'est génial et tout. Mais t'es gentil, ton portable à 3000 balles, non. Là, on va rentrer dans la même zone de luxe, finalement. Et même en disant que iOS, c'est génial, etc., on risque de perdre... Enfin, Apple se met quand même en danger là-dessus. Du coup, ça va être intéressant de suivre cette année comment se portent les ventes, tout bêtement. Et pas mal de gens disent que le XR risque de faire un énorme carton, puisque finalement... Il apparaît comme une bonne affaire alors que c'est un téléphone à 859 balles.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, la gueule de la bonne affaire. Quoi.
c'est là le génie du truc. Mais c'est con. Il y a vraiment un podcast complet à faire, parce que finalement, quand tu regardes la distribution par pays des parts de marché iOS, tu t'aperçois que c'est dans les pays où ça va très très bien, où Apple est très très en haut. Tu vois. Et dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, les parts de marché d'iOS sont vraiment pas folles. C'est un peu logique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Nous y reviendrons, certainement, avec des invités de qualité, peut-être. Nous verrons.
Et c'est la fin de ce 58e épisode de Torréfaction, un épisode un peu plus long, on vous l'avait promis, et puis c'était l'occasion de marquer le coup pour la rentrée. On se retrouve la semaine prochaine, dorénavant, on va se retrouver toutes les semaines, comme d'habitude. Hein.
Et peut-être ce soir, pour un petit stream vite fait, on verra, okay. Vous êtes sage.
Le rendez-vous est pris, on surveillera Twitter pour voir si t'annonces quelque chose, et puis donc, sinon, passez un bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, Caf.
À la semaine prochaine, ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Junior. You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.